Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Nordal-Lelandais.
Pour tous les Français, le visage de la petite Maëlys est désormais celui de l'innocence massacrée par la barbarie. Elle était belle pourtant ce jour-là dans sa jolie robe blanche. Toute la famille était réunie pour fêter ce mariage. Mais parmi les invités se cachait un intrus, Nordal-Lelandais. Comment les enquêteurs sont-ils parvenus à le confondre? Et surtout, quel secret cache encore celui qui s'est révélé être en fait un dangereux prédateur sexuel? La réponse dans cette nouvelle enquête de Chronique criminelle. La petite église de la Tour du Pin, à 70 km de Grenoble, n'a pas connu telle affluence depuis longtemps. Ce 2 juin 2018, la ville rend un dernier hommage à Maëlys lors de ses obsèques. 10 mois après sa tragique disparition, l'émotion reste intense, ici comme dans tout le pays.
Seigneur notre Dieu, nous avons du mal à comprendre que l'on puisse mourir si jeune et qu'une vie soit brisée alors qu'elle commençait à s'épanouir.
L'église est trop petite pour accueillir la foule. Sur toute la place règne un lourd silence lorsque Jennifer, la mère de Maëlys, prend la parole.
Tu étais si belle. Ton regard était profond, rempli d'amour et malicieux. Tu aimais nous fourrir, nous faire rire. La maison est triste sans toi. Repose en paix, mon ange. Tu es, et tu seras dans mon cœur pour toujours.
À la fin de la cérémonie, le petit cercueil blanc bouleverse tous les habitants de la ville.
Il n'y a pas de mots, j'ai encore du mal à réagir, que ça s'est passé, à réaliser que ça s'est passé, quoi.
La mort de Maëlys a ému la France entière. Tout le monde se sent concerné par la tragédie de cette famille.
Je ne la connaissais pas personnellement, mais ça touche quand même parce qu'on est quand même des mamans. On comprend ce que les parents vivent. Donc, c'est vrai que ça nous touche, mais on voulait être là, être présent pour cette petite fille, quoi.
J'ai trouvé les parents de Maëlys très dignes, très sereins, avec un courage énorme d'évoquer leur fille comme ils l'ont évoquée. On ne devrait pas être là pour subir et voir ce qu'on vient de voir aujourd'hui.
L'atmosphère est d'autant plus pesante qu'une ombre plane sur ses obsèques, celle de Nordal-Lelandais, un homme qui sort de l'ordinaire. Les enquêteurs le soupçonnent d'être impliqué dans d'autres disparitions. La police travaille sur une vingtaine de cas non élucidés. Alors, qui est vraiment Nordal-Lelandais? A-t-il le profil d'un tueur en série? Retour sur l'itinéraire d'un suspect hors norme. La traque commence à l'été 2017, dans cette petite localité de l'Isère, très appréciée des touristes, Pont de Beauvoisin. Un bourg de 3500 habitants où il fait bon vivre. La preuve, à la sortie de la ville, la salle des fêtes est très demandée. Ce jour-là, le 26 août, elle est réservée pour une grande réunion de famille, un mariage qui s'annonce particulièrement convivial. Les jeunes époux ont mis les petits plats dans les grands.
Les mariés sont une trentaine d'années, ils ont déjà des enfants, ils sont en couple depuis longtemps.
Tout le monde se connaît dans cette fête, ils sont tous proches les uns des autres. C'est ou des voisins, ou des amis, ou de la famille.
Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de la PJ de Versailles.
C'est vraiment une fête familiale, comme il s'en produit dans tous les villages de France, toutes les semaines, tous les week-ends.
L'atmosphère est joyeuse. Une vingtaine d'enfants courent entre les tables. Et parmi eux, une petite fille profite pleinement de la noce. Elle s'appelle Maëlys. Elle a 8 ans et demi.
C'est une petite fille très mignonne. Elle est habillée tout en blanc.
Véronique Parrette, grand reporter à France Bleu Isère.
comme le veut un mariage, avec des sandales blanches, une tresse dans les cheveux. Elle a des cheveux noirs, des grands yeux rieurs.
Elle avait dit à l'une de ses petites copines qu'elle était très impatiente de participer à cette fête de mariage.
Léopold Strajnik, rédacteur en chef de France Bleu Isère.
C'est un espace de liberté, souvent, les mariages, ces grandes fêtes de mariage pour les enfants.
Les parents de Maëlys, Jennifer et Joachim, n'auraient manqué pour rien au monde cette noce. En effet, Jennifer est une cousine très proche du marié. Dans l'euphorie de la fête, elle ne voit pas le temps passer. Et vers 2h45 du matin, la soirée bascule. Les parents de Maëlys sont soucieux. Depuis quelques instants, en effet, ils ont perdu de vue leur petite fille.
La maman de Maëlys cherche sa fille. Et donc, le DJ prend le micro et informe l'assistance qu'on cherche une petite fille, Maëlys.
Mais la fillette semble s'être volatilisée. La fête vire au cauchemar. La mère de Maëlys panique. Elle alerte alors les gendarmes. Les enquêteurs arrivent immédiatement et les premières constatations sont inquiétantes. Ils ne trouvent aucune trace de la fillette dans les environs. Aucun vêtement, aucun objet pour les mettre sur une piste. Au petit matin, les gendarmes font venir des chiens en renfort. Et subitement, l'un d'entre eux semble repérer quelque chose.
Et assez rapidement, les chiens marquent l'arrêt sur le parking et tout d'un coup, plus rien.
Pourquoi sur le parking? Ça veut dire qu'elle est forcément montée dans une voiture. Et montée dans une voiture, on l'a enlevée. Et très vite d'ailleurs, c'est la thèse qui va être mise en avant.
D'après la famille, Maëlys aurait pu faire une mauvaise rencontre sur le parking. Peut-être un rôdeur, car il n'imagine pas que cela puisse être un des invités. Et pourtant, pour les gendarmes, sans autre piste, tous les convives sont des suspects potentiels qui doivent être entendus.
Dimanche, en fin de journée.
Serge Pueyo, correspondant du journal Le Parisien.
Les gendarmes ont en leur possession une liste précise de tous les invités du mariage.
Il y avait 180 invités au mariage, ça fait beaucoup de témoignages à recouper entre ceux qui étaient là au début, ceux qui étaient là encore au moment de la disparition, c'est-à-dire aux alentours de 3h du matin.
Et c'est un énorme travail qui les attend parce que cela va nécessiter des dizaines d'auditions.
Et parmi tous les invités, il y en a un qui attire l'attention des gendarmes par son comportement pendant la soirée.
Il se fait déjà remarquer par déjà son habillement, qui est un petit peu déplacé par rapport à la noce.
Jean-Marc Ducot, grand reporter au journal Le Parisien, aujourd'hui en France.
Il est en short, en tennis, il braille un peu, il lève le coude, comme on dit, il boit plus que de raison. Voilà, il détonne dans le paysage.
La mère de Maëlys se souvient même de l'avoir croisé à ce moment-là. Et la mère dira que son attitude était curieuse. Il ne se sent pas complètement concerné par la disparition de la fillette. Et puis assez vite, il va s'éloigner, il va quitter la salle du mariage avant l'arrivée des gendarmes.
Les enquêteurs s'intéressent à son profil. Il s'appelle Nordal Lelandais. Il a 34 ans. C'est un ancien militaire passionné par les animaux. Il a été maître chien dans l'armée de terre. Les gendarmes interrogent d'autres convives pour savoir s'ils n'ont rien repéré d'étrange le concernant.
La maman de Maëlys a dit qu'elle avait vu Nordal parler plusieurs fois avec sa fille, qu'elle trouvait que c'était un petit peu bizarre qu'un homme de son âge, de 34 ans, s'intéresse à une gamine de 8 ans.
Il a eu effectivement des contacts avec la petite Maëlys, qui va même jusqu'à l'appeler tonton, dire c'est mon ami, etc.
Il a parlé de ses chiens à Maëlys, lui a même montré la photo de ses chiens qui était présente sur son portable. Et forcément, Maëlys, très attirée par les chiens, a continué à discuter autour de ces animaux.
Une chose est donc sûre, Nordal a sympathisé avec Maëlys durant la noce. Et ça n'est pas tout. Les enquêteurs repèrent un trou dans son emploi du temps pendant la soirée. Il s'est absenté durant une demi-heure, juste avant la disparition de la petite fille. Les gendarmes se demandent ce qu'il a bien pu faire.
Il va dire qu'il s'est taché son bermuda blanc avec du vin. Il dit qu'il est rentré chez lui pour se changer.
Et il ne voyait pas continuer la fête avec un...
Vincent Vallès, journaliste au Dauphiné libéré.
Un vêtement taché, donc il fait l'aller-retour.
Après avoir entendu tous les invités, seul Nordal Lelandais intrigue les enquêteurs avec cette histoire de Bermuda qui ne les convainc qu'à moitié. Mais ils n'ont rien contre lui. Il repart sans être inquiété. La mystérieuse disparition de Maëlys bouleverse toute la ville de Pont-de-Beauvoisin.
Stupéfaction, on est vraiment abasourdi, quoi, parce que c'est vraiment un truc impensable. Impensable.
Mmh. On retrouve la petite le plus rapidement possible. Hein. C'est le plus urgent, voilà.
Je suis grand-mère et donc je sais que ça serait arrivé à quelqu'un de ma famille, ce serait très dur.
Les habitants placardent même des appels à témoins un peu partout. Et subitement, les enquêteurs retombent sur Nordal, leur suspect. Car le lendemain du drame, un proche de la famille de Maëlys signale un détail troublant aux gendarmes. Il a repéré un des invités de la noce qui vient de passer un bon bout de temps à nettoyer sa voiture au centre de lavage. Et il est formel, il s'agit de Nordal Lelandais. Alors les enquêteurs se rendent à la station-service et ils ont de la chance. Elle est équipée de caméras vidéo. Ils saisissent les images et ce qu'ils voient renforce leurs soupçons.
Ils vont s'apercevoir que cette vidéo de nettoyage d'une voiture dure 2h17, ce qui est considérable. Donc 41 minutes de nettoyage des tapis à l'aspirateur. Ça en fait des jetons dans l'aspirateur, 41 minutes.
On le voit également passer beaucoup de temps à nettoyer le coffre de sa voiture, notamment avec un produit, un très fort détergent qu'on utilise habituellement pour laver les jantes.
Il prend un soin tout particulier à récurer la carrosserie, à nettoyer l'intérieur de l'habitacle, notamment le côté passager, avec un soin mais plus que maniaque.
Les gendarmes se demandent si ce nettoyage minutieux ne serait pas lié à la disparition de la petite Maëlys. Nordal aurait-il voulu effacer des preuves ? Son attitude est plus qu'étrange. Alors début septembre, ils le placent en garde à vue. Mais Nordal reste serein. Pour sa voiture, il a une explication toute trouvée.
Il expliquera, oui, la voiture, je devais la vendre. C'est vrai qu'on retrouvera l'acheteur potentiel de cette voiture.
Léopold Strajnik, rédacteur en chef de France Bleu Isère.
Mais à ce moment-là, pourquoi il a passé autant de temps à laver la portière passager et le coffre ? Ça, il ne l'explique pas.
Les enquêteurs sont persuadés que ce Nordal leur dissimule quelque chose. Pendant la garde à vue, ils passent au crible ses relevés téléphoniques. Et là, surprise, ils découvrent qu'il leur a caché un deuxième téléphone portable. Mais Nordal ne se démonte pas. Il en a besoin, dit-il, pour un petit business illégal. Il revend de la drogue.
Il y en a un qui lui servait sûrement habituellement pour sa vie normale, entre guillemets.
Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de la PJ de Versailles.
Puis le second téléphone, celui dont il cache l'existence aux gendarmes, c'est probablement avec celui-là qu'il faisait son business.
Il explique son attitude qui peut paraître un peu bizarre aux enquêteurs.
Véronique Parette, grand reporter à France Bleu Isère.
Parce que effectivement, il a cette activité de dealer et il essaie de la dissimuler.
Nordal n'est-il qu'un petit trafiquant ? Ou cache-t-il d'autres secrets moins avouables ? Les gendarmes sont perplexes, car un autre détail attire leur attention. Des griffures sur les bras. L'ancien maître chien affirme s'être égratigné en jardinant. Encore une fois, il a réponse à tout. Faute de preuves, il est donc relâché, mais les gendarmes n'ont pas dit leur dernier mot. Cela fait maintenant une semaine que Maëlys a disparu. Tandis que les enquêteurs multiplient les battues, Nordal, de son côté, nie en bloc toute implication dans l'affaire. Il clame même son innocence auprès des journalistes.
Très traumatisant comme expérience, donc...
Nordal Lelandais.
Rien à dire enfin, qu'il y ait des accusations, des choses comme ça, c'est tellement grave que...
Mais vous avez répondu aux accusations sur le fait que vous ayez des égratignures, vous leur avez expliqué quoi?
Mais ça, c'est des choses courantes de la vie, je veux dire. On fait un bout de jardin, bon, bah, des fois, on se prend une petite branche dans les pieds, voilà, c'est des... Les enquêteurs ont bien compris et ont bien vu ces choses-là.
Mais il ignore à ce moment-là que l'enquête avance à grands pas et dans une direction qu'il pensait abandonner, la piste de sa voiture. Les gendarmes ont saisi son Audi car ils se demandent toujours ce qu'il a voulu cacher en la nettoyant si minutieusement. Or, malgré ce lavage intensif, elle va parler.
Dès le lendemain, les recherches ADN qui ont été faites dans sa voiture font apparaître qu'il y a de l'ADN de Maëlys dans l'habitacle de la voiture.
Cette trace est repérée sur le tableau de bord.
Serge Puyot, correspondant du journal Le Parisien.
Sur le bouton qui sert à allumer les phares du véhicule, qui se situe à la gauche du conducteur, entre la portière et le volant.
Pour les gendarmes, c'est la preuve que Maëlys est bien montée dans sa voiture. Seulement voilà, le jeune homme n'en a jamais parlé. Cette nouvelle dissimulation renforce les suspicions des enquêteurs. Le 3 septembre 2017, l'affaire bascule.
Peut-être de nouveau après la disparition de la petite Maëlys, il y a plus d'une semaine après un mariage en Isère. Un homme placé en garde à vue puis relâché a été incarcéré finalement et mis en examen pour enlèvement et séquestration. Une trace ADN de la fillette aurait été retrouvée dans sa voiture.
L'affaire s'accélère. Avec cet ADN, les gendarmes sont persuadés qu'ils détiennent l'auteur de l'enlèvement de Maëlys. Un nouvel interrogatoire commence, mais une fois encore, il ne se déroule pas du tout comme prévu.
Nordal ne se démonte pas. Il sort une nouvelle explication en disant qu'en fait, il se souvient maintenant que Maëlys est montée dans le véhicule avec un autre petit garçon lors de la soirée.
Il explique que les deux enfants voulaient voir si les chiens étaient dans le coffre de son Audi.
Vincent Vallès, journaliste au Dauphiné Libéré.
Et donc, Nordal le Landais les a fait monter pour leur dire « Regardez, mes chiens ne sont pas là ». Il l'a aidé à les redescendre tous les deux.
Pour les enquêteurs, cette explication tardive n'est pas crédible. Cette fois, les gendarmes pensent le tenir. Il est placé en détention provisoire, où il se mure désormais dans un silence obstiné. Mais les enquêteurs savent maintenant que Maëlys est bien monté dans son Audi. Alors, où l'aurait-il emmené ? Les enquêteurs se focalisent sur l'emploi du temps de l'ancien maître chien et notamment son mystérieux aller-retour durant la noce. Pour cela, il a dû emprunter la route qui part de la salle des fêtes. Elle traverse le centre-ville de Pont-de-Beauvoisin. Or, il est truffé, ce centre-ville, de caméras de surveillance. Le soir du drame, elle filme la voiture de Nordal. Et surprise, il n'est pas seul à l'intérieur. Au palais de justice, cette révélation fait l'effet d'une bombe.
Sur deux de ces vidéos,
Jean-Yves Coquilla, procureur de la République de Grenoble.
Nous voyons une forme blanche, plus qu'une forme, puisque c'est une silhouette de petite taille, d'une, semble-t-il, une enfant, ou en tout cas quelqu'un de petit, avec une robe blanche et des cheveux qui semblent bruns, dénoués, qui est à droite.
Les parents de Maëlys reconnaîtront que c'est bien la robe que portait ce jour-là Maëlys.
Et il n'y a pas que les caméras de surveillance qui parlent. Les deux téléphones portables de Nordal le trahissent aussi. Et cela permet aux enquêteurs d'établir un premier scénario du drame. L'étau se resserre autour de l'ancien maître chien.
Nordal le Landais, vers 2h45, quitte la salle polyvalente avec Maëlys. Sur la route, en direction de Domessin, il éteint son téléphone portable, du moins il le met en mode avion.
D'après les gendarmes, Nordal ne veut pas être repéré, car c'est à ce moment-là qu'il enlève Maëlys, la séquestre, voire la tue, avant de revenir à la noce.
Et puis, il y aura aussi le retour de la même voiture de Domessin jusqu'à Pont-de-Beauvoisin par la même vidéo.
Jean-Marc Ducos, grand reporter au journal Le Parisien, aujourd'hui en France.
Qui cette fois filmera une voiture vide, tout au moins le côté passager, il n'y a plus personne à bord. Ce qui veut dire que la petite Maëlys a fait le voyage aller, mais n'a jamais fait le voyage retour.
Les indices recueillis par les enquêteurs sont accablants. Mais Nordal ne craque pas. Il fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Maëlys reste introuvable et l'attente est insupportable. Dans son village du Jura, la maison familiale est fermée. Les parents de la fillette sont restés d'une discrétion absolue. Mais le 28 septembre, ils organisent une conférence de presse. Ils prennent la parole pour supplier Nordal d'avouer.
Nous lui demandons de dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là et de coopérer avec la justice.
Jennifer de Harojo, maman de la petite Maëlys.
Il nous laisse à penser qu'il pourrait détenir des informations importantes et pouvant nous aider à retrouver notre fille. Il doit sûrement lui aussi se poser beaucoup de questions et réfléchir depuis sa cellule. Nous espérons qu'il entende notre appel à l'aide, car notre seul souhait, c'est de retrouver notre fille. Elle nous manque terriblement. Nous pensons à elle chaque jour, chaque seconde. Et nous espérons que cet appel sera utile et aidera l'enquête.
Mais du fond de sa prison, Nordal Lelandais refuse toujours d'avouer. Les enquêteurs ont accumulé des indices graves, son aller-retour durant la noce, ses portables coupés, et surtout, la forme blanche sur le siège passager. Mais ils en veulent plus pour le faire parler. Alors ils reviennent sur la seule piste qui les a fait avancer, sa voiture. Ils la passent à nouveau au crible, et ils font une découverte capitale. Mais au même moment, l'enquête va prendre une toute autre ampleur à des kilomètres de là. Nous sommes à Chambéry. C'est là que les gendarmes prennent connaissance d'une autre affaire qui, a priori, n'a rien à voir avec le dossier Maëlys. Elle concerne un jeune militaire de 23 ans, le caporal Arthur Noyer. Il a disparu sans laisser de traces depuis 8 mois. Enlèvement ou disparition volontaire, l'enquête est au point mort et l'émotion à son comble. Pour qu'on ne l'oublie pas, ses proches lui rendent un vibrant hommage en novembre 2017 à l'occasion de son anniversaire et ils tournent ce petit clip sur leur mobilisation.
Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés ici pour remobiliser l'opinion publique.
Cécile Noyer, mère d'Arthur Noyer.
Faire savoir au monde entier que nous sommes toujours à sa recherche.
Le 18 décembre 2017, la presse apprend que les enquêteurs sont sur une piste stupéfiante.
Jusqu'où ira l'affaire Nordal Lelandais, cet ancien militaire de 34 ans déjà suspecté d'avoir enlevé et tué la jeune Maëlys en août dernier, est à nouveau désigné comme suspect numéro 1 dans une autre affaire, la mort du caporal Arthur Noyer.
Car les enquêteurs s'aperçoivent qu'Arthur Noyer a disparu dans des circonstances similaires à celles de la petite Maëlys. Et surtout, que Nordal se trouvait dans les parages. Pour la justice, l'affaire devient hors norme. Cet homme au profil troublant serait peut-être un tueur en série. Tout s'est joué 4 mois après la disparition de la fillette. Les gendarmes de Chambéry apprennent qu'elle a été enlevée dans une Audi. Or, une voiture de ce type figure dans le dossier Arthur Noyer. Elle a été repérée grâce aux caméras de surveillance de la ville en avril 2017.
Cette voiture que l'on voit rouler vide ce soir-là sur la vidéosurveillance de Chambéry, curieusement.
Jean-Marc Ducos. Grand reporter au journal Le Parisien, aujourd'hui en France.
C'est la même Audi A3, avec les mêmes jantes, la même couleur, les mêmes autocollants que celle qui est vu sur la vidéosurveillance partir pont de Beauvoisin pour aller à Domessin.
Et là, tout d'un coup, l'enquête s'accélère.
Vincent Vallès, journaliste au Dauphiné Libéré.
Les enquêteurs de la SR de Chambéry vont avoir la certitude que c'est bien l'Audi A3 de Nordal-Hollandais.
Et elle a été aperçue à une date bien précise, le soir de la disparition du caporal Noyé. Pour les gendarmes, pas de doute, l'ancien maître chien est au cœur de cette nouvelle affaire. Mais comment le prouver ? Les enquêteurs ont une stratégie, accumuler les similitudes entre les deux disparitions. Arthur Noyé s'est volatilisé comme Maëlys à l'occasion d'une soirée festive. Tout s'est déroulé dans cette boîte de nuit du centre-ville de Chambéry le 11 avril 2017.
Différents témoignages à disposition des enquêteurs démontrent que ce soir-là, Nordal Hollandais était également à Chambéry, de plus au carré Curial, là même où le caporal et ses amis faisaient la fête dans différents bars et une discothèque.
Dans cette boîte de nuit, ce soir-là, il y avait bien Nordal Hollandais, il y avait Arthur Noyé.
Certains témoins indiquent même que tous les deux ont été en contact au cours de cette soirée qui se déroulera jusqu'à 2-3 heures du matin.
Et ce n'est pas tout. Arthur quitte alors la discothèque, seul, à pied, dans la nuit, et il se volatilise. Le procureur demande immédiatement des explications à Nordal. L'ancien maître chien reconnaît avoir été dans la boîte de nuit ce soir-là, car quand il est au pied du mur, il avoue. Mais sans preuve supplémentaire, il dément toute implication. Seulement voilà, les gendarmes trouvent une faille. Nordal n'a pas d'alibi après la soirée. Et pour cause, les enquêteurs sont persuadés qu'il était toujours avec Arthur Noyé. Il y a bien un moyen de le savoir. Géolocaliser leur portable. Et là, c'est le coup de théâtre.
Les deux téléphones portables de Nordal Hollandais et du caporal Arthur Noyé, eh bien, font chemin commun. Donc, on peut supposer qu'ils sont l'un à côté de l'autre ou l'un avec l'autre. C'est un élément plus que troublant.
D'un coup, le bornage s'accélère. Les enquêteurs en déduisent que le caporal est effectivement monté dans une voiture.
Les téléphones suivent la route de Chambéry à Saint-Baldolf. Peu après, les deux portables de l'ancien maître chien sont coupés. Puis, celui d'Arthur Noyé. Nordal dément avoir fait monter le jeune caporal dans sa voiture. Mais malgré ses dénégations, mi-décembre, le juge le met en examen pour assassinat. Mais deux mois plus tard, en février 2018, l'enquête piétine à nouveau. Les gendarmes sont convaincus que l'ancien maître chien a tué aussi bien Maëlys qu'Arthur. Mais ils n'ont toujours aucune preuve irréfutable contre lui. Or, le 14 février, l'enquête bascule. La voiture, entièrement désossée par les experts, a encore parlé. Ils ont détecté une minuscule goutte de sang. Cette fois, celui de Maëlys. Nordal est coincé.
C'est donc l'épilogue d'une affaire qui a commencé le 27 août dernier. Le procureur de Grenoble l'a confirmé en début de soirée. Confronté à des prélèvements ADN, Nordal Hollandais est donc passé aux aveux.
Il a avoué à cause d'une goutte de sang, tout simplement microscopique, invisible à l'œil nu. Mais c'est bien elle, cette goutte de sang retrouvée dans sa voiture, qui a tout fait basculer.
Des aveux qui ne satisfont pas complètement les enquêteurs. Que s'est-il passé précisément ? Nordal affirme avoir bien fait monter la fillette dans sa voiture, mais pour lui montrer ses chiens, et pas pour la tuer.
La fillette va paniquer, va crier, hurler, et Nordal Hollandais ne va plus se contrôler. Lui aussi va paniquer et va donc infliger une puissante gifle à la fillette, en plein visage. Quelques instants plus tard, il s'est aperçu que le pouls de la fillette ne battait plus.
En tout cas, dont on est sûr, c'est qu'il va déposer le corps en contrebas de la route et il va revenir. Nordal Lelandais va revenir comme si de rien n'était à la noce. Il va d'ailleurs rallumer son téléphone portable, il va se montrer.
Bref, selon lui, c'est un tragique accident. Mais les gendarmes n'en croient pas un mot. Leurs soupçons se renforcent lorsque Nordal les emmène là où il a abandonné Maëlys, un endroit où il pensait qu'on ne la retrouverait jamais. Un massif hostile et sauvage.
Le corps est malheureusement jeté aux prédateurs. C'est terrible, il n'y a même pas de tombe qui est creusée pour enterrer cette petite. On est face à quelqu'un qui est sans limite, sans morale, sans vergogne.
Nordal reconnaît que sa gifle a tué Maëlys sans le vouloir. L'expertise des ossements révèle que la fillette a bien reçu un coup à la mâchoire. Mais voilà, il n'a pas été mortel. Elle a donc été tuée autrement. D'une manière plus violente, seul l'ancien maître chien le sait. Selon les enquêteurs, Nordal est un criminel réfléchi et calculateur, ce qui ne les rassure guère pour l'autre dossier, celui d'Arthur Noyer. Mais cette fois, les gendarmes ont plus de chance. Quelques mois plus tôt, un promeneur a retrouvé un crâne proche de l'endroit où le jeune militaire a disparu. Les expertises ont pris du temps, mais fin décembre 2017, elles sont formelles.
Le hasard fait que le retour d'ADN...
Vincent Vallès, journaliste au Dauphiné Libéré.
...démontrera que ces débris de crâne sont celui du caporal Noyer. Et c'est à ce moment-là que les parents d'Arthur Noyer apprennent le décès de leur fils.
Cela fait 8 mois que la famille Noyer est sans nouvelles d'Arthur. Alors cette révélation les bouleverse.
Aujourd'hui comme hier, nous faisons confiance aux enquêteurs et à la justice.
Cécile Noyer, mère d'Arthur Noyer.
Nous allons continuer à nous battre pour toi, mon grand, jusqu'à ce que la vérité éclate.
Tout le monde veut savoir ce qui est arrivé à Arthur. Et les enquêteurs pensent avoir maintenant assez d'éléments pour faire parler Nordal. Et ils espèrent cette fois-ci qu'il n'aura pas réponse à tout. Le 29 mars au matin, l'interrogatoire commence. Quand il apprend que son téléphone a borné au même moment et aux mêmes endroits que celui du caporal, Nordal accuse le coup et il fait des aveux partiels.
Nordal Lelandais avouera dans un premier temps avoir pris en autostop le caporal, mais l'avoir déposé quelques kilomètres plus loin.
Comme toujours, Nordal Lelandais, il fait des aveux petit bout par petit bout.
Jean-Marc Ducos, grand reporter au journal Le Parisien, aujourd'hui en France.
Petit pas par petit pas. C'est quelqu'un qui ne lâche rien tant qu'en face, il n'y a pas d'éléments tangibles. Voilà. Il est toujours sur la retenue, il veut toujours savoir ce que les gendarmes ont comme atout pour pouvoir lui avouer.
Mais quand les enquêteurs lui annoncent qu'ils ont retrouvé les ossements du militaire non loin de là, cette fois, Nordal n'a aucune explication à fournir. Et subitement, il craque.
Il reconnaît s'être bagarré avec Arthur Noyer cette nuit-là, lui avoir asséné un coup assez violent au visage qui a fait que, selon lui, selon toujours ses dires, que le caporal serait tombé à l'envers, causant son décès.
C'est encore la théorie toujours invoquée par Nordal, des morts involontaires ou des accidents mortels involontaires.
Même version des faits, même circonstances, même mode opératoire. Selon les enquêteurs, l'ombre d'un possible tueur en série se profile. Pour mieux le cerner, ils fouillent son passé. Et ce qu'ils découvrent renforce leurs soupçons. Les gendarmes parcourent la région en quête de témoignages. Et son entourage décrit un jeune homme au tempérament volcanique, voire violent, dissimulé derrière un visage sympathique, au sourire charmeur. Nordal voit le jour en 1983. C'est un enfant plutôt tranquille qui vit ici, à Domessin, couvé par une mère affectueuse. Mais tout déraille à l'école. L'élève est chahuteur.
C'est quelqu'un aussi qui, dès l'enfance, a manifesté quand même des traits de caractère agressifs.
Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste des tueurs en série.
Menteur pathologique, lorsque par exemple il devait rendre des devoirs qu'il n'avait pas fait, il niait en permanence, même mis au pied du mur, en inventant des excuses complètement ahurissantes.
Vers 14 ans, il connaît un épisode douloureux. Ses parents le mettent en pension. Mais dans les mois qui suivent, ils apprennent qu'un membre du personnel aurait eu des gestes déplacés. Nordal présente alors tous les symptômes d'une victime traumatisée.
Il rentre chez lui et là, il a des crises de larmes de manière assez permanente. Il y aurait eu des attouchements sur certains élèves. Nordal Lelandais, lui, nie totalement avoir été victime d'abus sexuels ou d'attouchements. Ça semble être une fracture au sortir de l'enfance et au début de l'adolescence.
Une adolescence, elle aussi, difficile. Une seule passion semble l'animer, les chiens. Il quitte alors le collège pour l'armée. Il est attiré par l'univers militaire, les armes, la bagarre. Et il choisit une unité bien particulière. Un bataillon cynophile.
Il va devenir maître de chien. Il va servir pendant 4 ans et demi. Mais peu à peu, ses supérieurs vont comprendre qu'il n'est pas fait pour une carrière militaire. Son instabilité psychologique, son comportement avec les chiens également.
Son supérieur qui dirige le camp indique que Nordal se montre quelquefois très très agressif et violent vis-à-vis des animaux qu'il est supposé entraîner. Lorsqu'ils n'obéissent pas à ses ordres, les Malinois sont victimes de brutalité, de punition.
Plus le temps passe, plus les officiers le trouvent bizarre et surtout mauvais soldat.
L'armée ne l'a jamais jugé capable d'être partir en opération extérieure parce qu'elle ne le sentait pas être mentalement apte à faire face à ce genre d'opération. Donc il est resté simple maître chien.
Et puis il est surtout surpris à plusieurs reprises dans l'enceinte militaire avec du cannabis.
Il est brutalement renvoyé. Nordal enchaîne alors galère sur galère. Il se montre de plus en plus agressif jusqu'à basculer dans la petite délinquance. Un soir de 2008, il cambriole avec deux complices à un restaurant au bord d'un lac.
L'un se souvient qu'en pénétrant dans cet établissement, il s'est blessé. Il y a probablement donc sa trace.
Lors du cambriolage de ce snack, la plage, au bord d'un lac, pour effacer des traces de sang, il met le feu à l'établissement.
Nordal Hollandais, il a le profil de quelqu'un qui a déjà un passé de délinquant. Voilà, c'est quelqu'un qui est bagarreur, c'est un dealer d'habitude.
Dans l'affaire du restaurant, il est condamné à 1 an de prison ferme pour dégradation et incendie. Nordal est devenu un adulte impulsif qui n'aime pas qu'on lui résiste. Les gendarmes s'en rendent compte en interrogeant ses anciennes petites copines. Certaines gardent de lui un souvenir douloureux.
Lorsque parfois survient une séparation, il sort de ses gonds, se montre violent, menaçant. Une ex-amie raconte même qu'elle a vu sa dernière heure arriver.
Karine va croiser Nordal Lelandais dans un bois.
Ronald Gallo, avocat d'une ex-petite amie de Nordal Lelandais.
Il promène ses chiens et il sait qu'elle a ses habitudes, où elle les promène. Lorsqu'elle se retourne, elle voit que M. Lelandais aurait un taille-haie.
Nordal ne supporte pas que Karine, sa petite amie, le quitte. Alors il la traque pour tenter de lui faire changer d'avis. Jusqu'à ce jour où le jeune homme lui fait vraiment peur.
Elle est en voiture, il est en voiture. Monsieur Lelandais lui fonce dessus. Elle pile qu'il espérait qu'elle fasse un geste avec le volant et qu'elle percute elle-même le mur.
Karine dépose plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. L'affaire se déroule en juillet 2017, tout juste un mois avant la disparition de la petite Maëlys. Mais les témoignages de ses ex-petites amies lancent les enquêteurs sur une autre facette de la personnalité de Nordal, une sexualité débridée. Toutes les descriptions concordent. Dans la région, Nordal passe pour un dragueur impénitent. Nous avons retrouvé deux de ses meilleurs amis qui nous le confirment. Ils ont accepté de se confier à condition de rester anonymes.
Nordal, avec les femmes, c'était plutôt un homme qui prenait les devants, qui n'hésitait pas à aller draguer une fille, si ça n'allait pas une deuxième fille, etc. En soirée, il draguait facilement et il se faisait facilement des connaissances et des rencontres, quoi, sans problème.
Nordal, il sait bien séduire, il sait bien plaire, il sait draguer et il sait arriver à ses fins assez facilement. C'est pas un problème pour lui.
Mais pour les experts psychiatres, il n'est pas un séducteur tout à fait comme les autres.
Nordal Lelandais multiplie les rencontres, donc on peut penser qu'il a sa dose de sexualité, de relations intimes. Mais chez lui, à mon avis, ce qui importe, ce qui compte, c'est la chasse. Pas la séduction, la chasse et la traque qui lui donnent ce sentiment de toute puissance.
Et cette chasse ne cible pas que les femmes. En fouillant son ordinateur, les gendarmes découvrent que Nordal dissimule un autre aspect de sa sexualité.
Il fréquente aussi de façon assidue des sites de rencontres masculines.
Jean-Marc Ducot, grand reporter au journal Le Parisien, aujourd'hui en France.
Il a des aventures homosexuelles furtives dans des backrooms, notamment sur des aires d'autoroute. Il fréquente aussi des boîtes de nuit gays.
Il finira par confirmer devant les experts psychiatriques qu'il a eu deux relations homosexuelles.
J'aurais jamais pensé qui puisse justement avoir des tendances bisexuelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, quand on regarde toutes les photos qu'on a pu faire de soirées, de ci, de ça, il est vraiment tout le temps proche quand même des hommes et tout le temps à faire des bisous, à faire mordiller l'oreille, à faire mettre un coup de langue sur la joue pour la photo.
Mais voilà surtout ce qui intéresse les experts. Nordal n'assumerait pas son homosexualité. À la moindre occasion, il affiche son mépris envers les gays. Comme par exemple ce soir-là, où devant ses amis, il se fait filmer en train d'appeler un site de rencontre homosexuel pour mieux se moquer de son interlocuteur.
C'est vrai ? Ah, ça vraiment, ça fait vraiment plaisir, hein ?
Nordal Lelandais.
Ah ouais, c'est bon, hein ? Ah oui, pas beaucoup, hein, 23 cm.
Ouais, c'est bien déjà.
Bah ouais, c'est déjà pas mal, hein, ce qui paraît, hein. Tu aimes fouetter? Tu aimes fouetter? Avec Martinet? Avec Martinet?
Avec tout.
Oui!
Pour les gendarmes, c'est un comportement très révélateur. Ce mélange d'attraction et de répulsion envers les hommes pourrait expliquer en partie le meurtre d'Arthur Noyer.
Il ne supporte pas qu'on lui résiste.
Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste des tueurs en série.
Ça peut être un mobile sexuel, puis après, lorsqu'il n'y a pas consommation de cet acte sexuel, il y a peut-être ce sentiment de frustration qui va se transformer en colère et donc décider d'éliminer cette personne qui lui résiste.
Un mobile possible pour le meurtre du jeune caporal. Mais alors, pourquoi Nordal s'en est-il pris aussi à Maëlys ? Les experts mettent en lumière un des aspects les plus sombres de sa personnalité, son attirance pour les enfants.
Nordal Lelandais fréquentait aussi des sites pédopornographiques.
On sait que le jour précédent la mort de la petite Maëlys, il avait regardé sur son téléphone portable des images pédopornographiques.
Est-ce qu'il a voulu tenter une terrible expérience avec cette petite?
Et le lendemain du meurtre de la petite Maëlys, il aurait là encore visionné une vidéo apparemment ultra-violente de pédopornographie.
Nordal Lelandais a le profil d'un prédateur pédophile. Les enquêteurs se demandent alors si Maëlys est son unique victime. Ils poursuivent leurs investigations et dans la mémoire d'un de ses téléphones, ils retrouvent une vidéo que Nordal avait tenté d'effacer.
Cette vidéo a démontré une agression sexuelle d'une fillette.
Des agressions sexuelles sur sa propre petite cousine, qui était venue passer quelques jours de vacances chez ses parents à Domessin. On bascule dans un autre univers.
Les faits sont si graves qu'en juillet 2018, un juge d'instruction met en examen Nordal Lelandais pour agression sexuelle sur mineur.
Est-ce qu'il n'est pas en train d'expérimenter à la fois une bisexualité, une hétérosexualité qui ne lui convient pas, une pédosexualité parce qu'il veut voir ce que c'est? Voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus de tabou, qui n'a plus de limites. C'est surtout quelqu'un qui n'a plus de morale.
La sexualité débridée de Nordal Lelandais est, selon certains enquêteurs, magistrats, l'une des clés du meurtre de Maëlys, de l'assassinat du caporal.
Ses amis n'en reviennent pas. Ils n'avaient jamais imaginé découvrir un jour Nordal sous ce profil.
J'aurais jamais pensé qu'il puisse être impliqué dans cette histoire. Parce que connaissant, on ne pouvait pas douter qu'il fasse de choses comme ça. Donc,
j'ai l'impression d'avoir connu une personne gentille et sympathique. Et là c'est devenu un monstre qui peut tuer n'importe qui, n'importe quand. C'est assez indescriptible, quoi.
Nordal, tueur en série, les gendarmes envisagent cette hypothèse. L'affaire s'emballe.
Pour la première fois depuis plusieurs années, policiers et gendarmes se demandent s'ils n'ont pas affaire à un tueur en série. Le procureur de Chambéry l'a d'ailleurs confirmé hier. Les autorités vont examiner ou réexaminer toutes les disparitions inquiétantes dans la région.
Et même au-delà. Depuis que Nordal a avoué le meurtre d'Arthur Noyer, des centaines d'affaires non résolues refont surface. Pour examiner ces cas, policiers et gendarmes créent une unité spécialisée. La cellule Ariane.
Surtout qu'un type comme Lelandais, si on considère qu'en 6 mois...
Bernard Valézy, vice-président de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues.
Il a commis le meurtre de Maëlys, le meurtre de Noyer, la tentative de meurtre contre sa copine, plus l'affaire d'attouchement sur sa cousine, 4 affaires en 6 mois... Bon, ça veut dire qu'avant, il en a forcément commis d'autres. C'est pas arrivé d'un coup.
Parce qu'en règle générale, ce sont aussi des délinquants dits ordinaires, parce qu'on ne naît pas tueur en série, on le devient en franchissant un certain nombre de paliers.
Au total, la cellule Ariane examine près de 900 dossiers. Mais après plusieurs mois d'enquête, elle n'en retient qu'une 20aine. Et le cas le plus saisissant, c'est l'affaire Lucie Roux. Tout se déroule encore près de Chambéry, là où Nordal Lelandais a tué Arthur Noyer. Or, 5 ans auparavant, une Savoyarde de 48 ans, Lucie Roux, se volatilise. Alors quand sa sœur Nathalie entend parler d'un éventuel tueur en série, elle donne l'alerte. Pour elle, il n'y a pas d'autre explication possible à cette disparition.
Dans son enfance, ça se passe très bien, elle est très jolie, elle a beaucoup de succès au collège, au lycée. Elle est plutôt douée aux études, elle est jolie et intelligente.
Nathalie Roux, sœur de Lucille Roux.
Mon papa décède en 2006. Et là, pour elle, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Et elle s'est progressivement isolée du reste de la famille.
Lucie est très affectée par le décès de son père. Elle se coupe de tout le monde, à tel point qu'elle doit être hospitalisée dans la banlieue de Chambéry.
Elle souffre de phobie sociale. C'est-à-dire, c'est de l'anxiété importante qui rend compliquées les relations.
Et c'est dans cet établissement psychiatrique que le destin de Lucie bascule en 2012. Les gendarmes qui ont réouvert le dossier de sa disparition commencent leur enquête par l'hôpital. Ils s'intéressent au personnel, aux malades, et ils font une découverte stupéfiante.
Nordal Lelandais aurait séjourné à l'hôpital psychiatrique en 2012, en même temps que ma sœur.
Nordal Lelandais est dans cet établissement à cause de ses problèmes liés à l'alcoolisme et à des dépressions.
Ben, je me dis, elle a disparu et elle l'a croisée. Et je me dis, au milieu de toutes les familles qui ont un disparu, ben je me dis, ben nous, on a un vrai lien.
Pour les enquêteurs, la coïncidence est troublante, mais rien ne prouve l'implication de Nordal. Alors les gendarmes creusent le dossier Lucie Roux. À ce moment-là, en janvier 2018, la presse a longuement évoqué les affaires impliquant l'ancien maître chien. Son visage est maintenant connu. Un témoin appelle alors les enquêteurs et leur raconte une scène cruciale qui se serait déroulée à la cantine de l'hôpital.
Plusieurs pensionnaires de cet établissement.
Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste des tueurs en série.
Ont indiqué que Lucie Roux a partagé des repas avec Nordal Lelandais.
Ce que je peux tout à fait imaginer. Je me dis qu'elle a pu le trouver très sympa et se dire, bah voilà, j'ai un copain, enfin un ami. À l'hôpital, c'est quand même plus agréable quand on a des relations, même en milieu comme ça fermé.
Donc là, on a véritablement un rapprochement concret entre Lelandais et une personne qui a disparu.
Un indice, mais qui ne fait pas de Nordal un coupable. Quelque temps après cette rencontre, Lucie disparaît mystérieusement, en laissant chez elle ses papiers et son téléphone. Pour sa sœur, cette coïncidence est troublante.
Comme on est dans le potentiel tueur en série, ça me conforte dans l'idée que c'est possible. Que la disparition de ma sœur, elle ne serait peut-être pas de son fait à elle.
La gendarmerie cherche à en savoir plus sur ce fameux déjeuner et tente actuellement de reconstituer l'emploi du temps de Lucie juste avant sa disparition. D'autant qu'elle est loin d'être la seule à s'être volatilisée dans la région. Car la cellule Ariane accumule les dossiers de disparition mystérieuse. Elle s'intéresse de près au cas Jean-Christophe Morin, 23 ans, un routard qui vit de petits boulots. Son profil ressemble étrangement à celui du jeune caporal Arthur Noyer. Même âge, même physionomie et même distraction. Il adore faire la fête. Il disparaît en 2011 à l'occasion d'un festival de musique techno organisé chaque année dans le fort de Tamiers, à 55 km de Chambéry.
Il s'y est rendu en stop avec un ami pour rejoindre d'autres amis. Pendant la soirée, ils se sont perdus de vue.
Adeline Morin, sœur de Jean-Christophe Morin.
Le dernier témoin qui a vu Jean-Christophe dit l'avoir vu partir de la soirée en courant, en disant que quelqu'un lui en voulait.
Et un an plus tard, au même endroit, au même festival, nouvelle disparition, dans les mêmes circonstances. Autre coïncidence troublante, la victime, Ahmed Amadou, se rendait régulièrement à la Bridoire, un petit village situé à quelques kilomètres de Pont de Beauvoisin et du domicile de Nordal Lelandais.
Et mon frère, si ça se trouve, même, il l'a côtoyé, ce Nordal Lelandais.
Farida Amadou, sœur d'Ahmed Amadou.
Je pense qu'il a dû le côtoyer. D'autant plus qu'on habitait la Bridoire. On a hérité d'une maison là-bas. Et de temps en temps, il allait se ressourcer. Et de la Bridoire à Pont-de-Voisin, il y allait souvent en stop. Et je pense que si ça se trouve, il a rencontré aussi Nordane peut-être un peu le voisin, aller savoir qu'il ait pu le côtoyer dans un bar ou autre. Hein.
Une supposition que rien pour l'instant ne vient étayer. Mais pour les experts, une telle série de disparitions similaires dans une région fréquentée par Nordal soulève des interrogations.
Alors, est-ce qu'il est lié à ces disparitions ? Tout ça, ça fait quand même beaucoup de coïncidences et d'événements de disparitions qui peuvent être liés au fait qu'ils se trouvent dans les mêmes lieux au même moment. Alors, ça n'en fait pas un responsable automatique de meurtre, mais disons qu'il a le profil pour être un tueur en série. Si vous me posez la question, je réponds oui, même s'il est toujours présumé innocent à ce jour.
Sur les 20 dossiers prioritaires examinés par la cellule Ariane, 14 ont été jugés suffisamment sérieux pour être officiellement réouverts par la justice. Mais elle n'a pas fait état de nouveaux éléments qui incrimineraient Nordal Le Landais. Quant au meurtre qu'il a avoué et qu'il présente comme accidentel, ces explications sont loin de satisfaire les enquêteurs. Pour les parents de Maëlys, la tragédie vécue par leur fille n'a pas livré tous ses mystères. Et tant qu'ils ne connaîtront pas les circonstances exactes de sa mort, tout deuil demeure impossible.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.